Écoutez, moi je pense que la communauté internationale doit être en tout cas à la hauteur du caractère exceptionnel de ce qui s'est passé depuis le 25 août en Birmanie. On parle quand même probablement d'une épuration ethnique, voire d'un génocide, selon les définitions qu'on donne aux choses. Et on a un peu l'impression qu'il y a moins de couverture médiatique depuis 2-3 semaines, mais les flux de population continuent. Avec des situations humanitaires terribles qui se déroulent entre la Birmanie et Bangladesh. On suspecte le gouvernement birman d'avoir miné la frontière de manière à empêcher les retours des Rohingyas. Donc tout ça aggrave très très fort la situation. Des centaines de milliers de personnes en quelques semaines, ça s'est pas vu, disons, en Asie du Sud-Est, mais plus globalement sur la planète depuis certainement une bonne décennie.
Cette crise avec les Rohingyas, elle dure quand même depuis plusieurs années, mais vous citez ce 25 août comme date charnière vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qui fait qu'on parle même peut-être de génocide ?
Alors, nous soutenons la thèse que le génocide, ou en tout cas l'épuration ethnique à l'encontre des Rohingyas, c'est un vieux projet. Le 25 août est une date charnière dans la mesure où un petit groupe armée s'est emparée de quelques postes frontières et de postes de police dans l'état de l'Arakane. Et il y a eu, une vingtaine de morts dans le personnel militaire et policier birman. L'armée birmane a répliqué massivement et de manière tout à fait organisée. On a senti très très fort qu'elle était très préparée pour le faire, avec tout le panel des exactions qui constituerait une espèce de petit manuel de l'épuration ethnique. Ce sont des viols collectifs, ce sont des incendies de maisons avec des habitants dedans, des crimes tout à fait odieux. C'est cette situation qui a généré cet exode massif de 500 000 personnes vers le Bangladesh.
Alors, vous dites que c'est une action qui a été préméditée. Qu'est-ce qui fait qu'elle se déroule là en ce moment ou depuis le mois d'août de manière encore plus intensive ? Certains évoquent aussi que ce serait une manière pour les militaires qui étaient autrefois au pouvoir de reprendre davantage le pouvoir.
Oui. Alors là, moi, je pense personnellement que cela relève plutôt d'une forme de mythe. On sait que la constitution birmane actuelle, adoptée en 2008, permet au gouvernement birman et à l'armée de reprendre le pouvoir dès que la patrie est en danger. Mais je pense que la situation actuelle, c'est exactement en fait ce que les militaires ont mis en place depuis 2008, à savoir ils se sont rendus fréquentables en laissant émerger au pouvoir une dame que l'Occident soutenait, Aung San Suu Kyi, tout en ne se réformant pas eux-mêmes, puisqu'ils ont gardé la main sur trois ministères clés, l'intérieur, les frontières et l'armée, et tout un volet de l'économie birmane qui leur permet de continuer à peu près tout ce qu'ils ont fait par le passé. Donc je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de retourner à la situation d'antan, qui était la situation que les Occidentaux, notamment, critiquaient, et cette situation qui faisait que la Birmanie était devenue un état paria.
Ça signifie que, s'assurant donc les bonnes grâces aussi des Occidentaux, les autorités ont choisi ce moment justement pour agir contre les Rohingyas ?
Je pense que les autorités ont choisi un moment probablement où ils ont senti qu'ils pouvaient se le permettre sans trop de remontrances internationales. Cela a été vérifié la semaine dernière puisqu'on attendait une déclaration forte de l'Union européenne. Et on a eu une simple réponse très très légère avec la seule sanction qu'on ait prise, c'est l'interdiction de visa et l'arrêt des visites internationales des dignitaires de l'armée birmane. Mais c'est à peu près tout ce que l'Europe a pris comme position. Alors certes, on peut comprendre une espèce de réel politique qui mènerait l'Union européenne et ses États membres à ne pas vouloir discréditer davantage Aung San Suu Kyi auprès de la junte. Mais on se dit qu'il y a des choses en cours en termes d'investissement et de partenariat avec la Birmanie qui représentent de l'argent aussi pour les Occidentaux et qu'ils sont aujourd'hui très très mal positionnés pour se plaindre d'une situation humanitaire aussi exceptionnelle soit-elle.
Autrement dit, on ne peut pas être vraiment très optimiste pour la suite des événements concernant les Rohingyas en tout cas.
Non, nous avons vraiment une interprétation du signal très faible de l'Union européenne, qu'il s'agit simplement d'un feu vert pour continuer les abus. Tout ça rentre dans un contexte dans lequel il y a un réel déni birman, alors à la fois politique, mais aussi tout à fait massif au sein de la population, à l'égard des Rohingyas, puisque les Rohingyas ne sont pas des citoyens comme les autres, ils ne sont pas perçus comme des citoyens comme les autres, et ils ne font pas partie de la Birmanie bouddhiste majoritairement. Et ce n'est pas du tout une volonté que de faire en sorte que cette situation s'améliore. Or, c'est bien là la clé du problème. Tant que la Birmanie n'aura pas assimilé le fait qu'elle est composée d'une myriade d'ethnies différentes, avec des religions différentes et des langues différentes, je pense que ça restera un pays en guerre. Et je rappelle que la Birmanie est en guerre depuis 50 ans, de manière ininterrompue, malgré ce qu'on en dit en Occident depuis 5 ans et depuis l'avènement au pouvoir d'Aung San Suu Kyi. Ça reste un pays en guerre dans lequel la plupart du pays, en tout cas sur les frontières, ne vous est pas accessible parce que l'armée ferme les routes.
Et donc ce n'est pas non plus probablement Aung San Suu Kyi qui changerait quoi que ce soit.
Nous pensons profondément qu'Aung San Suu Kyi n'a aucune intention d'y changer quelque chose. Elle était élevée dans un contexte dans lequel les Rohingyas étaient déjà les ennemis de son père. La Birmanie essaie de s'écarter de sa population musulmane. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que, de manière très cynique, le gouvernement d'Aung San Suu Kyi actuel ne fait pas apparaître un seul parlementaire musulman, et encore moins un ministre, ce qui est une première depuis l'après-guerre.